Comme chaque mois, Jean-Joseph Desmottiers, vice-président et animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux de la Sarthe, revient dans nos studios pour nous dévoiler, cette fois, les mystères d'une petite bête bien désagréable, la tique. Bonjour Jean-Joseph Desmottiers.
Bonjour Sarah.
Voilà donc un thème pas encore de saison, mais cela ne va pas tarder.
Oui. Même si c'est pas évident pour l'instant, le printemps va pas tarder à arriver, s'ils nous l'ont promis. Hein. Alors donc, ça va être une des périodes où les tiques se réveillent et reprennent leurs activités. Donc j'ai bien envie de vous en parler.
Eh bien, c'est parti.
La tique a deux périodes, deux summums d'activité dans l'année, le printemps et l'automne. Quand qu'il fasse ni trop sec en été, ni trop froid, où elle a tendance à se cacher. Et durant ces deux périodes-là, elle se met, alors je vais employer un terme technique encore parce qu'il fallait que je le passe, elle se met en diapause, c'est-à-dire que ce n'est pas une hibernation ni pas une estivation, disons qu'elle ralentit son métabolisme.
Bien sûr, une diapause.
Bien sûr, bah alors donc la diapause, alors je vais m'expliquer bien définitivement. Si on prend une hibernation, la bestiole... La température refroidit, le cœur se met à battre hyper lentement, mais plus que lentement, hein, c'est un battement toutes les minutes, hein, c'est vraiment tranquille. Il y a tout qui tourne au ralenti, sauf les fonctions absolument vitales, par exemple le cerveau, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'irrigation des poumons, et puis bon, l'irrigation aussi des cellules graisseuses. S'il faut se réveiller. Disons qu'il y a vraiment le minimum. Tandis qu'en diapause, il y a le métabolisme ralenti, mais continue à tourner. Par exemple, on a chez les oiseaux, on a le martinet. Le bébé martinet, lui, il se nourrit que de ce qu'apportent les parents, c'est-à-dire des insectes volants. Si il pleut tout le temps, il n'y a plus d'insectes. Donc, le jeune, ne voyant plus la nourriture arriver, se dit « Oh, il est temps que j'économise un peu d'énergie. » Il baisse le radiateur, légèrement, et puis attend que les parents reviennent. Il tombe dans un coma. Une sorte de petit coma, puis bon, dès qu'elle se réveille, les parents le secouent, hop, tu manges, elle leur met une béquille, et hop, c'est reparti. Ben, la tique, c'est pareil. Et donc, elle sort de la diapause. La diapause hivernale, c'est quand la température remonte. Elle se dit « Oh, là, il est temps que je m'y remette. » Et la diapause d'été, quand la température, elle sort du sauna, et puis hop, les températures redeviennent à peu près dans le créneau qui lui plaît, elle se réveille aussi.
Donc, à quoi ressemble vraiment la vie d'une tique ?
Toutes ces questions. Pardon. La vie d'une tique, c'est en durée entre 2 et 3 ans. Pendant ces 3 ans, elle va prendre 3 formes. Donc, on commence par le début. Donc, la tique, ça commence par un œuf. Elle sort de l'œuf. Quand elle sort de l'œuf, c'est une larve. Larve, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle fait son premier repas. Alors, elle ne mange que du sang. Ça, c'est incontournable. Donc, comme elle est toute petite, il va falloir qu'elle trouve un animal, pas à la dimension, mais avec la peau, à la dimension de son rostre. C'est-à-dire le petit piquant qui va lui permettre d'aspirer. Donc, elle va tomber sur un tout petit animal. C'est du stade lézard ou souris. Hein. Au bout de 2 à 15 jours de repas, parce que bon, elle ne mange pas souvent, elle mange une fois, mais elle prend son temps. Donc, elle avale le sang. Une fois qu'elle est bien gavée, elle se laisse tomber, tombe au sol, trouve un petit trou dans la terre, et attend. Là, elle mue, elle regrimpe sur une plante, pas trop trop haute, une vingtaine de centimètres de haut, et attend. Elle attend le passage d'un animal de taille moyenne. On va dire un lapin, vous voyez, c'est à peu près ce format-là. Elle s'y agrippe, prend son deuxième repas, et retombe à terre, et fait sa deuxième mue. À ce stade, elle est adulte. Donc, là, les mâles, terminés, ils ne mangent plus. Il n'y a que les femelles qui vont se gaver de sang pour fabriquer des œufs. Alors elle choisit une plante encore un peu plus haute, c'est-à-dire 1 mètre, 1 mètre 50. Vous voyez, un arbuste en général, ça, oui, un arbuste à peu près. Et là, elle va attendre qu'il y ait un animal assez grand qui passe. C'est-à-dire, bon, sanglier, cerf, chevreuil, ou un être humain. Oui, c'est à ce moment-là qu'elle est dangereuse. Donc là, au bout de... Elle va s'agripper dessus. Entre 3... Le temps d'aspiration va durer entre 3 et 15 jours. Elle se laisse tomber au sol, elle pond et elle meurt. Pour les femelles. Voilà, voilà.
Donc, où vit-elle en France ?
Partout. Partout. Mais il y a des endroits en France un peu plus exposés, où il y a plus de population. C'est-à-dire actuellement, et sous réserve de modifications, mais pour l'instant c'est là, il y en a beaucoup en Alsace, en Auvergne et en Normandie. Sinon, il y en a partout. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il doit y en avoir partout.
Alors, je peux vous l'assurer, puisque j'ai fait une récente sortie en forêt, et je peux vous garantir qu'il y en a par chez nous.
Exact. Mais bon, après, il faut que les scientifiques les aient inventoriés. C'est-à-dire que le attrape des bestioles, des chevreuils, des chats sauvages ou n'importe quoi, les examine et regarde s'ils ont été piqués par des tiques. Mais bon, une fois qu'ils ont la tique sous la main, ils prélèvent du sang à l'intérieur de la tique pour savoir si elle est porteuse de maladie.
Alors justement, comment s'y prend-elle pour repérer ses victimes ?
Ah, alors là, elle est super bien équipée. Bon, donc le seul critère pour repérer ses victimes, ça va être de repérer ses victimes. Alors c'est quoi une victime ? Ça va être un animal qui passe. Alors, qu'est-ce qui caractérise un animal ? Ça va être sa chaleur, ça va être le dégagement de gaz carbonique, ça va être l'ombre qu'il va faire quand il va passer à côté, ça va être l'odeur, et la variation de température. Si vous passez à côté d'un truc, vous êtes un peu plus chaud que l'environnement. Alors pour cela, elle a ce qu'on appelle l'organe de Haller. C'est une sorte de petite... un petit organe qui se trouve dans les pattes avant, à l'extérieur des pattes avant, et c'est ce qui lui permet de détecter tous ces changements. Oui, c'est drôlement bien fait, la nature, quand même. Oui, et puis bon, les pattes avant sont assez écartées, c'est-à-dire que en fonction de l'arrivée de la... Par exemple, il y a du gaz carbonique, si le gaz carbonique arrive, si elle le sent d'abord sur la patte gauche, enfin sur l'organe gauche, et après sur l'organe droite, elle saura que l'animal est orienté vers la gauche. Vous voyez ? Donc, et ça marche avec tout, avec la chaleur, avec tout. Et donc, là, elle sait qu'elle a une victime potentielle, et la repère, et va se jeter dessus, mais ça, c'est une autre histoire.
Alors, on fait une courte pause, et on retrouve Jean-Joseph Desmottier pour continuer ce reportage sur cette mystérieuse petite bête, la tique. Dans la seconde partie, nous aborderons comment fait-elle pour piquer et les maladies que la tique peut nous transmettre. A tout de suite.
Tout de suite.
Rien n'y fait. Le noctambule broie du noir, toute nuit Saint-Georges y est passé. Le marchand de lait, qu'il a vu sur le trottoir, est tout retourné de le voir dans cet état. Et tout en le prenant dans les bras, il lui dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il sait que la vie est vache, mais on la boit comme du petit lait. Sur ces mots, le marchand de lait le lâche, puis s'en va. Le noctambule, prêt à se marier, se dit que la mariée est trop belle. Et ce n'est jamais le jour, car lui se couche quand elle se lève. Le soleil qui le regardait faire, entre deux oreillers de nuages, lui aussi n'a pas du tout, mais pas du tout l'air d'avoir passé une bonne nuit. Il se dit qu'il aurait mieux fait d'aller se coucher. Ce n'est pas le noctambule qui va le contredire. Le noctambule a de la fièvre. La lune, comme une lampe, l'assiste à son chevet. Elle le voit tout pâle. On dirait que 100 000 étoiles de la galaxie tournent autour de lui. La Terre, elle, attachée de rouge son bel habit tout bleu, elle ne sait pas pourquoi tout ce sang perdu coule sur les 4 continents. Chacun voudrait bien se réveiller de ce mauvais rêve. Sisyphe roule son rocher, la terre fait des rondes de nuit, le soleil s'y fait et prend la relève. Galilée, mauvais coucheur, leur apprend que c'est elle qui tourne autour de lui et non pas le contraire. C'est depuis qu'elle fait des insomnies. Le noctambule se dit qu'il aurait mieux fait de se taire. Les choses étant ce qu'elles sont, il se dit qu'on ne peut pas changer une loi universelle sans raison. Mais les filles et les garçons, eux, changent bien le monde à la cour de récréation, puisqu'ils trouvent une vérité qui les rend amoureux, sur le papier comme dans la réalité. Car tout ce qui tourne autour de leur amour rend le soleil presque heureux. Et tandis que continue le grand cirque des petits ennuis, le soleil un peu curieux qui avait depuis longtemps enlevé sa chemise de nuit et fait le tour de la question, dépose dans les cheveux de la fiancée autant de baisers qu'il y a de papillons dans la corbeille de l'éternité. Le noctambule se promène encore dans un coin de Paris, puis change d'avis et rentre à la maison.
De retour dans votre émission Nature, nous sommes toujours avec Jean-Joseph Desmottier, vice-président et animateur bénévole.
Président
et animateur bénévole au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux. Aujourd'hui, on parle de la tique. Dans la première partie de notre émission, nous avons abordé la vie de la tique. Maintenant, nous allons découvrir comment fait-elle pour nous piquer et les maladies qu'elle peut nous transmettre. On commence tout de suite avec une première question. Comment fait-elle justement pour nous piquer ?
Eh oui, bon, elle vous a repéré. On a regardé avec l'organe de Haller. Elle sait que vous êtes une victime potentielle, donc elle se laisse tomber sur vous. Elle ne saute pas, hein. Elle n'est pas équipée pour, c'est pas une puce. Hein. Elle se laisse tomber sur vous, s'accroche à tout ce qu'elle peut, et va avancer sur la peau, enfin, avancer sur ce sur quoi elle est accrochée, en général c'est un poil ou autre, hop, va avancer sur la peau, et courir le long de votre peau jusqu'à... Non, faites pas cette tête-là. Non, il n'y a pas de tique ici. Alors, avancez sur la peau jusqu'à trouver un endroit où la peau est la plus fine et qu'elle puisse être, elle puisse être percée. Comment on fait pour savoir si c'est la plus fine ? Ben, c'est tout simple, hein. C'est là où c'est plus chaud, le plus chaud, c'est là où les vaisseaux sanguins passent juste en dessous de la peau. Donc, elle s'y prend toujours de la même façon, quel que soit son stade de développement. Elle a un rostre. Alors, c'est-à-dire une sorte de petit piquant à l'avant, séparé en deux, et qui a la forme des petits harpons, vous voyez, donc avec des dentelures gauche et droite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va piquer alternativement Vous vous rappelez des couteaux électriques de table? Bon, il y a deux lames comme ça, mais ça fonctionne à peu près de la même façon. Donc, elle va rentrer, et avec les petits harpons, ben, il y a une partie qui reste accrochée pendant que l'autre s'enfonce, etc. Et tuc, 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 ça va s'enfoncer. Là, elle injecte un petit produit anesthésiant. Comme ça, vous ne sentez même pas que vous êtes piqué, c'est tranquille. Une fois que le produit anesthésiant est bien planté, elle va sécréter autour du rostre une sorte de petit ciment, une sorte de colle ciment qui va la verrouiller sur vous. Comme ça, vous pourrez tirer comme un sourd, elle ne bougera pas. Une fois que ça s'est bien séché, elle va vous injecter à l'intérieur, donc toujours de l'anesthésiant, et en plus des enzymes qui vont liquéfier le sang. Parce que bon, si un caillou sanguin, elle ne va pas pouvoir l'aspirer. Donc il faut que le sang soit liquide, et va se mettre à pomper votre sang. Elle va pomper. À l'intérieur de son corps, le sang va être desséché, concentré. C'est-à-dire qu'il va perdre les deux tiers de l'eau qu'elle va évacuer et ne garder que tout ce qui est essentiel, l'hémoglobine, enfin toutes les petites cochonneries qui peuvent se balader dans votre sang. Et elle réinjecte après des enzymes, mais le problème, c'est qu'en injectant des enzymes, elle injecte aussi des virus ou des bactéries qu'elle possède dans son petit corps. Et là, c'est ça qui... Si elle se contentait que de pomper le sang, ce serait pas trop grave, mais elle vous injecte ces cochonneries-là. Et donc, une fois qu'elle est complètement gavée, en fait, elle a grossi pour la femelle au dernier stade, vous voyez, quand elle va faire les œufs, elle va multiplier par 200 son poids. 200 concentrés. Et tout ça va lui servir à faire les œufs.
Alors justement, quelles sont les maladies transmises par la tique?
Alors il y en a plein, mais bon, on parle de deux principales. Il y a la maladie de Lyme et la méningoencéphalite actique. Déjà rien qu'à prononcer, on devient malade. Bon, la maladie de Lyme ou La maladie de Lyme ou borréliose est une maladie infectieuse émergente d'origine bactérienne. Bon, elle s'appelle Lyme, c'est pas du nom de l'inventeur, mais en fait c'est du nom d'un village au Canada où elle a été découverte. Alors, les symptômes de cette maladie-là, ça ressemble à de la grippe. Donc, ça ressemble à de la grippe, vous avez les sueurs, enfin, disons, ça ressemble. Mais le problème, c'est que ça n'apparaît pas immédiatement une fois que vous êtes piqué, ou immédiatement après. Ça peut demander des semaines, voire des mois après. Donc, il y a longtemps que vous avez oublié que vous avez été piqué par une tique. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est très difficile, parce que même vous, quand vous allez chez le médecin, bon... la tique, il y a bien longtemps, ça fait 3 mois qu'elle vous a piqué, vous ne vous en rappelez plus. Par contre, il y a un truc qui ne trompe pas, c'est l'érythème migrant. Alors là, c'est bien un mot compliqué. En fait, vous avez un bouton rouge qui pousse sur la peau. Alors le bouton reste, et tout autour, il y a une sorte d'anneau rouge aussi qui va en s'écartant. Et ça, c'est à peu près sûr que vous avez eu une piqûre de tique. L'autre, encore un problème, c'est que c'est pas systématique. On n'a pas obligatoirement un érythème migrant. Donc, ça, c'était pour la maladie de Lyme. Alors, donc, si vous vous rappelez avoir été piqué par une tique, et vous avez vous allez chez le médecin, et surtout, vous lui précisez que vous supposez une maladie de Lyme. Il va vous faire une prise de sang et envoyer ça dans un labo qui va bien.
Alors, justement, est-ce qu'il existe des traitements pour la maladie de Lyme?
Oui, le traitement existe. Alors, on va vous faire avaler des antibiotiques, mais c'est un traitement de cheval. C'est le dosage. Hein. Là, ça vous met sur le flanc et ça dure 15 jours, 3 semaines. Et tous les jours. Hein. Et là vous allez éviter la maladie de Lyme. Le problème, c'est en fait, la maladie de Lyme, c'est pas tellement de... Elle est soignée, c'est surtout de la détecter. Et comme c'est longtemps après, c'est pour ça qu'elle est si embêtante que ça, cette maladie-là. On a parlé de l'autre maladie, là, vous savez, la méningo-encéphalite, on en parle vite fait comme ça, ça ressemble un peu, elle attaque le système nerveux central. C'est un peu comme la rage. Vous savez, vous êtes piqué, le virus, lui, il va se coller dans un nerf, il va remonter le nerf jusqu'à là au cerveau, puis là, c'est foutu. Quoique, il n'y a rien pour combattre ça, vous êtes foutu. Comme la rage.
Oui, je sais. Ça mérite d'être clair.
Oui, voilà.
Alors, justement, comment peut-on faire pour éviter une morsure?
Alors, déjà, vous mettez des habits clairs. Je sais, c'est pas qu'elle aime les habits clairs et tout ça, mais au moins, vous la repérez plus facilement dessus. C'est comme un petit insecte très sombre, donc vous allez la voir se balader sur les habits clairs. Il faudra des chaussures fermées, les petites sandalettes et tout, on oublie. Et vous mettez le pantalon dans les chaussettes. Je sais, question look, c'est pas top. Oui, mais bon, il
Mieux vaut prévenir que guérir.
Très bien. Voilà, donc voilà. S'il y a quelques parties nues, mettre du répulsif, il existe du répulsif, hein, vous trouvez ça dans toutes les bonnes pharmacies. Vous évitez de passer dans les friches, c'est-à-dire là où l'herbe est plus ou moins haute. Vous vous rappelez, les tiques se perchent et se laissent tomber sur leur proie. Donc si vous marchez dans un chemin, il n'y a aucune chance d'en attraper. Par contre, si vous marchez dans les broussailles, dans une friche, ça c'est sûr, vous allez en attraper. De retour à la maison, on se déshabille et on s'examine soi-même, ou si on a une paire d'yeux à côté, vous faites examiner, et partout, et surtout dans les endroits où la peau est la plus fine. Par exemple, derrière le genou, elle aime bien ça. Ici, vous voyez, la peau est toute fine, donc elle va se cacher ici. Et n'oubliez pas d'en faire autant pour vos animaux de compagnie, le chat, le chien et tout ça. Donc vous allez soulever les poils et les passer à brosse poils, quoi. Les tiques, on a remarqué que les tiques aimaient bien les endroits derrière les oreilles. Mais bon, ça n'empêche pas qu'elles puissent piquer autre part. Mais quand elles sont petites, la peau derrière les oreilles, c'est là où c'est la plus fin.
Alors sur le corps humain justement, est-ce qu'il y a d'autres zones où on ne pense pas forcément à garder et où elles peuvent nous mordre?
Enfin disons, il y a surtout des endroits où oui, on ne pense pas à regarder, mais le
nombril par exemple, ça peut être
par exemple
un
le nombril, l'aine aussi dans les replis aussi, elle aime bien ça, se planquer dans les replis. Alors il faut écarter la peau puis bien regarder. Bon. On va pas aller plus loin. je le pense, mais voilà. Donc, mais surtout, c'est sérieux quand même, hein, comme histoire. Bien, bien regarder. Et en fait, ça fait au niveau adulte, ça va. Elle est facilement repérable, mais en tant que larve, elle est toute petite, petite, petite. L'avantage, c'est que en tant que larve, l'endroit où la peau humaine est trop épaisse, donc elle pourra pas vous piquer correctement.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de piqûre?
Alors, ne pas flipper. Oui, je sais, après tout ce que je vous ai raconté, c'est normal. Mais entre le moment où elle a planté son rostre et le moment où elle commence à être vraiment dangereuse, il se passe quand même 36 heures. Les 36 premières heures, elle n'a pas encore eu le temps d'injecter ses virus, sa salive et les virus. Donc ça vous laisse une petite marge de manœuvre.
D'où l'importance de bien se sculpter quand on rentre de forêt.
Ah, le soir même, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va regarder ça, et donc on s'examine. Oh, une tique. Alors, vous n'y allez pas bourrin, vous ne prenez pas la tique et vous tirez comme un sauvage. Ça, c'est le meilleur moyen d'attraper de ces cochonneries-là. Donc, il existe dans le commerce deux outils pour retirer les tiques. Il y a un outil, ça ressemble à une pince à épiler, avec un petit trou au milieu. C'est-à-dire que la pince à épiler, on va la prendre et faire passer le rostre dans le petit trou. Parce qu'il ne faut pas l'écraser, surtout la tique. Hein, vous voyez, c'est une pince à épiler, enfin c'est une pince... vous voyez, c'est...
À dénuder, un peu comme une pince à dénuder, avec un trou au milieu de la pince.
Oui, en cuisine, ça ressemble un peu aux pinces pour enlever les arêtes des poissons. Vous voyez, avec un petit rebord comme ça. Ou alors, l'autre truc qui existe, c'est un tire-tique. Ça ressemble à un petit pied de biche. Vous voyez, donc on fait glisser le pied de biche entre la peau et la tique. Et là, à ce moment-là, il faut toujours tourner. Dans un sens ou dans l'autre, on s'en moque, mais il faut tourner. Pourquoi ? Parce qu'il faut casser, vous vous rappelez la petite colle qui sert à se souder. Donc, vous tournez la tique, et c'est comme si vous la dévissiez, vous tournez, 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 et vous tirez doucement dessus. Parce qu'il faut que toute la tique vienne tranquillement. Si vous tirez comme un bourrin, la tête va rester dans le corps, et ça c'est pas bon. Et donc il va falloir tourner, 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 et tirer tout doucement. Alors, tout ce qui est l'aspergé de produits. Alors, vous allez entendre des bêtises, genre avec l'essence, l'alcool, de l'huile, machin. Non. En fait, c'est pire encore parce que la tique, se sentant agressée, va injecter le produit. Elle sent que hop, c'en est fini pour elle, donc elle vous injecte tout ça dans le corps. Donc ça, c'est à éviter. Éviter de prendre à la main ou une pince à épiler standard pour éviter d'écraser le corps, surtout, parce que là, c'est pareil, ça fait comme une petite poire. Vous glissez dessous, vous tournez, 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 et vous tirez tout doucement. Une fois que ça, la tique est faite et retirée, vous la... moi, je la brûle. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elle a disparu. Et vous désinfectez l'endroit où elle était. Vous désinfectez les outils qui vous ont servi. Et normalement, tout devrait se passer correctement. Vous vous lavez les mains. Et pareil, vous faites exactement pareil pour les animaux domestiques. C'est exactement la même manipulation.
Ah, comment faut-il faire alors ?
C'est-à-dire ? Pour les animaux ?
Oui.
Oui, le seul problème, c'est qu'ils sont un peu plus poilus que l'être humain. Pardon. Ils sont un peu plus poilus, donc vous risquez de... Quand vous allez prendre la tique, vous risquez de prendre des poils et puis tourner et tirer un peu sur les poils. Ça va pas lui plaire, hein. Je sais, mais bon, c'est pour son bien, donc il va falloir lui expliquer gentiment... Tu bouges pas Médor, et puis voilà.
Comme pour nous, il faut désinfecter la plaie ensuite ?
Toujours, toujours, toujours désinfecter. Et puis bon, la guérison, c'est... si par malheur, elle a eu le temps de vous injecter un produit, rassurez-vous, les antibiotiques sont efficaces. Le problème, il faut la détecter à temps, surtout. Alors donc... tous les soirs, enfin, une fois que vous avez fait votre balade, visitez regardez-vous, prenez la douche, passez les mains partout. Vous savez, la tique, on sent, ça fait un petit bourrelet, une sorte de petit bouton. Là, j'ai un petit bouton, vous regardez, bon, c'est vraiment un bouton ou c'est une tique. Donc, hop, on l'a. Et si vous avez quelqu'un sous la main, une paire d'yeux sous les mains, n'hésitez pas à vous les utiliser.
Alors, justement, vous aviez dit que si on y allait trop fort, on pouvait laisser la tique dans le corps, que ce soit chez l'animal ou chez nous, l'homme.
Oui.
Comment ça se passe justement après, si malheureusement, on a enlevé juste le corps, mais pas la tête ?
Ah.
Comment ça se passe ?
Donc là, vous allez chez le médecin, il va vous le retirer, mais il faut faire une petite incision pour pouvoir sortir le rostre. Vous voyez le petit truc avec le petit harpon là. Donc comme il est planté dans la peau, ne cherchez pas à le sortir parce que bon là c'est comme si vous enleviez une écharde, mais l'écharde elle est plantée dans la peau. Tandis que là c'est planté et en plus il y a les petites barbules. Donc en fait il faut une petite incision et puis la faire ressortir. Mais ça il faut une bonne loupe et puis que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Parce que ne vous le faites pas, vous risqueriez plus la... Après, oui, vous pouvez passer le CAP charcuterie, il n'y a pas de problème.
Eh bien, merci Jean-Joseph Desmottiers. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous contacter et nous faire part de vos thématiques que vous souhaitiez que nous abordions à l'antenne. Vous pouvez nous contacter par mail à redaction@radioprévert.fr, par téléphone au 02 43 46 36 80 ou sur notre page Facebook. À très bientôt, Jean-Joseph Desmottiers.
À bientôt, Marie-Sara.
Et merci pour tous ces renseignements.
Je vous en prie.